Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Une émission qui vous met en reconnexion avec votre culture. Avec Au clair de lune, suivez les contes du village. Suivez les contes du village tous les jours sur www.radiointégration.com. Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission d'Au clair de lune. Je suis Marie-Noëlle Etungu, au micro de la présentation, assistée à la technique par Josué Nabral. Pour ceux qui découvrent Au clair de lune, c'est votre émission consacrée à la production et à la diffusion des connaissances sur la culture. Au clair de lune nous amène aujourd'hui dans un village appelé Pimpirim. Et c'est dans ce village que nous allons découvrir comment ça se passait avant, quels étaient les secrets qui animaient nos grands-parents, comment est-ce qu'ils vivaient au temps de la précolonisation et à la colonisation. Donc vous l'avez si bien deviné, ce sera un plongeon dans les racines profondes de notre culture camerounaise et africaine en général. Alors au micro de la présentation, je suis Marie-Noëlle Etungu, assistée comme d'habitude par Josué Nabral à la technique. Je vous retrouve après cette respiration musicale.
Mono yo Cameroon, mono yo zanga yangamba, makuma bomo gabon, gumo bomo gabon, abomo bomo mazu bomo Cameroon, gumo talama tu andaman, zanga mabomo Congo.
Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui nous nous rendons à Pimpirim, qui est un village qui se trouve dans la forêt équatoriale. Les voitures qui s'y rendent sont rares. Une seule occasion tous les 2 à 3 jours à cause du mauvais état de la route. La renommée du village ne souffre d'aucune contestation. Sauf que ceux et celles qui s'y rendent sont presque tous connus par l'unique chauffeur transporteur de la ligne.
Passager à bord.
C'est pas le fait d'un hasard. Dans le village Pimpirim, il y a un long bosquet appelé Okanganyang. Ce bosquet est très étrange. En effet, la route à cet endroit est penchée d'un côté, tant et si bien que la voiture s'incline à un angle d'environ 30 degrés en journée. Mais la nuit, l'angle devient encore plus étroit, plus penché, j'allais dire. Les voitures se renversent alors dans le bosquet. C'est chose courante. C'est toujours des voitures transportant des vivres, curieusement, qui se renversent sur elles-mêmes, des camions transportant des boissons, des cartons de poissons. Les villageois se sont ravitaillés. Ils en ont mangé du frais et du fumé, de la nourriture pendant plusieurs mois, ainsi que de la boisson. Ils se sont saoulés comme des diables et ils n'ont pas manqué d'aller remercier le gardien du bosquet. Ils sont allés remercier le gardien du bosquet qui n'est rien d'autre que le grand sorcier du village en la personne de Papa Okun. Ils étaient sûrs que c'était grâce à lui qu'ils avaient tout, parce que ce dernier les avait prévenus et leur avait demandé expressément de ne même pas se gêner pour aller en ville, que tout allait bien sûr, parce que tout allait bien sûr les trouver sur place. Aucun habitait seul dans le long bosquet, dans une solitude absolue. Les habitants des villages voisins évitaient de s'aventurer dans le bosquet de peur de rencontrer la panthère noire aux yeux brillants comme des torches allumées. Tout ce qu'il avait vu n'était jamais revenu vivant. Seuls leurs vêtements déchiquetés et tachés de sang étaient le seul témoin de l'horreur vécue. Lorsque Juliette, l'une des petites filles du grand sorcier du village, s'engagea dans le bosquet, il était déjà 18 heures. La route était étroite au milieu des arbres. C'était presque la tombée de la nuit ici à Pimpirim Pimpirim. Mais elle pouvait encore voir. Elle voyait le sol, là où elle posait ses pieds. Il est bien vrai que la voûte des arbres jetait déjà une ombre très, très sombre sur le chemin. Mais elle pouvait tout de même encore voir. De toute façon, elle n'avait pas le choix sur cette route penchée sur le côté.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Son cœur battait la chamade. Elle traversa toute seule le grand bosquet. Au milieu du chemin, il y avait une forme humaine entourée de lucioles tout autour d'elle. En effet, les lucioles lui donnaient une forme humaine dans le noir. C'est pourquoi l'on pouvait distinguer la tête, les bras et les pieds. La forme s'allongeait et devenait géante et large tantôt. Juliette serra le cœur et avança prudemment en récitant des Ave Maria dans son fort intérieur. Bientôt, elle dépassa ce spectacle. Parvenue au bout du bosquet, elle se trouva nez à nez avec Okun, qui lui fit comprendre qu'il l'attendait. Il l'avait vu partir et savait qu'elle devait rentrer. Il était la première personne qu'elle vit sur sa route. Elle le salua d'une voix toute tremblante. « Bonne nuit, grand-père !» Celui-ci répondit en la regardant de haut en bas. « Bonne nuit. Je t'attendais parce que je ne t'avais pas vu rentrer. » En entrant dans la case familiale, sa mère était dans tous ses états.
« Comme c'est ma tête que vous voulez couper dans cette maison, je vous ai déjà demandé de ne plus marcher la nuit. Vous savez ce qui se passe, mais vous faites quand même. On va voir. Yelmani, vous t'y es moi. »
Elle répéta la consigne qui était pourtant claire. Ne jamais traverser le bosquet dans la nuit. Dans le village, ma fille, je t'avais pourtant dit, je vous l'avais dit à vous tous mes enfants, combien vous êtes têtus. Oh, qu'est-ce que je dois faire avec vous? Juliette, tu t'en vas t'engager toute seule dans ce bosquet. Et tu sais très bien que personne ne commet jamais cette erreur. À cause, bien sûr, de la panthère. Cette panthère qui déchire et mange quiconque ose braver l'interdiction. Par un clair de lune, les jeunes du village Pimpirim se disaient des histoires. Question de veiller. L'inspiration avait été tellement riche ce jour-là que personne ne voulait regagner son lit ou son chez-soi. La nuit était déjà fort avancée lorsque tous les regards des jeunes furent attirés par l'arrivée d'un individu qui sortait du bosquet interdit. Et il faut dire que dans ce bosquet, il y avait un cimetière. Il était vêtu d'une gandoura toute blanche avec capuche. Il avait tiré la capuche sur sa tête. Lorsqu'il arriva au niveau des jeunes du village, qui n'étaient pourtant pas à découvert, il se dirigea, il fonça tout droit vers eux. Ce qui créa un vent de panique. Ceux-ci se dispersèrent en criant « Au secours !» Chacun poussait la porte de sa cage avec toute sa force et venait tomber à l'intérieur. Question d'échapper à l'étranger qui arrivait, qui ne semblait être tout autre qu'un revenant. Lorsque ce dernier vit que tous les jeunes étaient entrés à l'intérieur, ils n'eurent de choix que de tourner le dos et de continuer sa route vers le village. Ce n'était pas la seule aventure, la seule frayeur de cette nuit. Les jeunes de Pimpirim, toujours très têtus, reprirent position après le départ du revenant. Et cette fois-là, quelle ne fut pas leur surprise de voir une autre personne s'amener. Cette fois-là, ça semblait être une femme. Elle était recouverte d'un voile tout blanc sur sa tête et marchait et semblait marcher à l'aveuglette parce que le voile était vraiment couvert. On ne voyait pas il n'y avait pas de place pour le visage ni pour les yeux. Alors, cette dernière s'avançait. Ils ne la laissèrent même plus s'approcher d'eux et refilaient dans la même direction pour aller entrer dans la maison. Mais cette fois-ci, l'inconnu se dirigea aussi à l'intérieur de la case. Mais c'était à l'intérieur de la case d'un patriarche. Malheureusement, ce dernier, ses enfants avaient laissé la porte ouverte. Elle poussa la porte avec sa main et entra. Elle faisait cet étrange bruit. Lorsque Francine, qui était dans son sommeil profondément endormie, a entendu cette étrange voix qui faisait Francine se réveilla en sursaut et hurla si fort qu'elle se mit debout d'un seul bond sur ses deux pieds et courut tout droit devant elle. L'étrange créature la suivait, la poursuivait, j'allais dire. Mais les jeunes prirent leur courage à deux mains et s'armèrent de bâtons pour frapper sur cette étrange créature qui s'en alla tout droit dans la forêt, toujours en criant de cette étrange voix quel don elle seule détenait le mystère. Dans ce village, je m'en vais continuer à vous narrer les scènes nocturnes de ce village. Les parents de Akamba avaient l'habitude de l'envoyer dans la forêt avec ses petits frères. Akamba n'avait que 12 ans et ses petits frères étaient âgés respectivement de 7 et 6 ans. Il était 18 heures lorsque leur mère, leur maman se rappela que les enfants avaient passé toute la journée à jouer sans aller faire la commission qu'elle leur avait donnée, qui était d'aller porter le régime de plantain dans la forêt, régime dont ils devaient bien sûr se nourrir, qu'elle devait préparer à la maison ce jour-là. Elle vint d'une voix forte et leur dit: vous savez, même s'il fait nuit aujourd'hui, vous irez porter ce régime de plantain, même s'il fait nuit noire. Vous croyez que vous allez me dépasser? Ah, ça non, vous n'allez pas me dépasser. Les enfants, voyant la détermination de leur mère, prirent les pieds et s'allèrent dans la forêt pour porter le régime. Et lorsqu'ils y parvinrent, la nuit était déjà tombée et il fallait normalement allumer une torche pour voir le chemin. Tant et si bien que l'aîné Akamba dit à ses petits frères, demanda à ses petits frères de se placer derrière elle afin qu'elle leur montre le chemin qu'elle connaissait par cœur. Elle-même se plaça devant, plaça le plus jeune derrière elle et enfin celui qui la suivait clôturait la marche. C'est ainsi qu'ils se dirigèrent. Et sur leur chemin retour, ils furent surpris de ne pas pouvoir se repérer car les arbres balançaient et au rythme d'un vent fou qui leur fouettait le visage et leur empêchait de voir le chemin par lequel ils devaient marcher. Mais ils marchaient quand même à tâtons. Et arrivant à un niveau où le vent les souleva presque de terre, les enfants criaient autant qu'ils pouvaient. Et l'aîné qui savait déjà prier, psalmodiait des Ave Maria et des chansons et demandait à ses petits frères de reprendre en chœur après elle. Et lorsqu'ils furent arrivés en route, ils furent surpris de voir quelqu'un, une forme humaine qui était aussi entourée par des lucioles. Et tant et si bien que cette forme, lorsque il les vit, il les salua et les gronda. Mais qu'est-ce que vous faisiez encore dans la forêt, toi, Kambala? Je te reconnais. C'est toi qui étais tu es en train de tes petits frères dans la forêt. Et elle lui dit, traduction en langue de Molière. Nous avons vu Manbilele, donc c'est Manbilele qui est placé avec les lucioles autour de lui là. Vous avez vu Manbilele? Regardez Manbilele. Donc les enfants retournèrent à la maison et lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, le papa était très en colère et très furieux contre la maman et la menaça de ne plus jamais envoyer ses enfants dans la forêt, dans la nuit tombée, à la nuit tombée, parce qu'elle ne pourrait pas répondre de ce qui pouvait les arriver. Madame, Monsieur, c'était tout ce que nous avions prévu ce jour. Vous avez écouté et aimé, nous l'espérons, l'histoire du village avec ses différentes épopées. Si vous avez aimé, venez nous le dire sur www.radiointégration.com. Et j'étais Marie-Noël Epungu au micro de la présentation assistée de Josué Nabral. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ciao.
Une émission qui vous met en reconnexion avec votre culture. Avec Au clair de lune, suivez les contes du village. Suivez les contes du village tous les jours sur www.radiointégration.com.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.